perspective contemporaine. Bonsoir, la fiction sur France Culture, deuxième partie. À l'occasion de l'exposition Belles et Hommes, présentée à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 20 janvier, France Culture et le Parc de la Villette sont associés pour programmer des voix et des plumes, un cycle de lecture consacré aux animaux. Ce soir, dans Perspective contemporaine, voici de larges extraits de deux œuvres d'Antoine Volodine, Des anges mineurs et nos animaux préférés. Ces textes ont été enregistrés en public salle Boris Vian, le dimanche 24 novembre à midi.
Des anges mineurs, nos animaux préférés. Récits et narra d'Antoine Volodine. Une réalisation de Michel Sidorov. Enregistré en public à la salle Boris Vian de la Grande Halle de la Villette. Avec Marie-Armelle de Guy, Jean-Luc de Baptiste, Éric Herson-Macarel.
Jalia Solaris. Borodine sauva une souris. Il avait toujours apprécié les souris et il aimait l'idée du sauvetage. Ce qui advint par la suite montra que son influence sur le destin des souffres-douleurs était négligeable. Mais pendant un moment, il évita à la rongeuse une minute d'agonie qui aurait pu être atroce. Il la retira de la gueule d'un chat roux. Il avait acculé le félin dans une impasse entre l'évier et la poubelle. 7 heures du matin venaient de sonner. Dans la cuisine persistait la sérénité des heures nocturnes quand il ne se passe rien, que les vivants sommeillent, que les choses se dégradent et rancissent loin de toute lumière, dans un silence que seul trouble le moteur du vieux frigo et ses pénibles extinctions brinque-balleuses. Tout semblait dormir encore, à l'exception de Borodine et des animaux. Le chat était gras, lustré, avec de replètes joues tigrées de blanc, et avec l'air de se moquer royalement de tout. Il fit quelques difficultés et d'abord esquiva la main de Borodine, mais peut-être parce que soudain le visitait une bouffée du respect terrorisé que les humains souvent provoquent chez les autres, il abandonna la partie. La paume de Borodine mendiait sous sa gueule. Il y laissa négligemment tomber une aumône grise. La souris palpitait. Elle était humide de bave et de peur. Aussitôt, elle planta ses dents aiguës dans une phalange de Borodine, la plus proche. C'était la phalangette de l'index droit. Borodine protesta et serra un peu plus fort son poing. Ensuite, Borodine sortit, ne sachant que faire de sa prisonnière. Il fut dans la rue. Il la traversa. On était en automne. Les tilleuls jaunissaient, les marronniers perdaient leur bogue, et pour la plupart, les hirondelles avaient déjà changé de ciel. Les adultes mâles également. La circulation sur les avenues n'était plus ce qu'elle avait été à la belle saison. Les automobiles raréfiées avaient commencé à s'élargir pour l'hiver et à se modifier. Et déjà leur volant n'était ni à droite ni à gauche, le siège de la conductrice s'étant déplacé vers le centre de l'habitacle. Ces automobiles étaient en général pilotées par des femmes aux yeux immenses, aux étincelantes prunelles dorées, à la chevelure translucide ou grise, qui examinait la route sans siller ni sourire, et dérivait lentement sur la chaussée, comme si les commandes leur étaient un tantinet étrangère. Après avoir dérapé sur une cinquantaine de mètres, l'une de ces femmes freina devant Borodine. Elle avait pour nom Jalia Solaris, ainsi que le spécifiait la plaque d'identification vissée sur le pare-choc. L'asphalte brillait. La voiture était arrêtée à un pas de Borodine sur le trottoir. On entendait le bruit discret des soupapes. Le réglage de l'avance ne présentait aucun défaut. Il y avait des incrustations d'insectes sur les phares et sur le capot, les traces d'un récent impact de hibou, indiquant qu'en d'autres circonstances, ailleurs qu'en ville, la voiture pouvait atteindre de grandes vitesses. La conductrice fixait, avec une intense impassibilité, un point situé à l'intérieur de Borodine. Pour Borodine, qui connaissait sa place dans l'univers, il était difficile d'imaginer un contact entre lui et la conductrice. Il essaya de se raconter une histoire où elle figurerait, où tous deux figureraient, une plage de complicité banale ou extraordinaire, mais rien dans son esprit ne prenait forme. Les femmes aux immenses yeux d'or, aux longs cheveux translucides, les tueuses de hibou n'étaient pas du même monde que Borodine. Jalia Solaris souleva sa main du volant, en un geste qui, certainement, selon elle, devait être une invite claire, un signe lisible. Borodine contourna l'avant de la voiture. En deçà du pare-brise, les yeux de Jalia Solaris continuaient à le regarder, lançant des ondes couleur d'ambre qu'il ne savait pas interpréter. Il croisa cela, cette vibration, un orage secret dont il ne pouvait comprendre ni le rythme ni la puissance, puis il baissa la tête. Ce visage exprimait pour lui trop de sentiments inconnus, des états d'âme invérifiables, une disponibilité peut-être, une disponibilité affective ou une imploration, ou au contraire de la fureur, ou peut-être du dégoût, ou une curiosité d'entomologiste glacé. Comme il ne parvenait pas à affirmer à la moindre certitude sur le sujet, Borodine songea à se rapprocher mentalement de la souris qui, dans son poing, s'impatientait et maintenant lui griffait la pulpe des doigts. Mais là aussi, la communication réelle, la relation et même le concept d'une relation s'étiolaient dès la première seconde. La souris avait le museau propre, non griffé. Toutefois, à la naissance du dos, là où le chat avait refermé les crocs sur elle, une goutte de sang perlait. Quand elle vit que son geôlier approchait d'elle sa bouche et ses yeux, la souris se tortilla avec véhémence, puis de nouveau, elle feignit le coma. « Pauvre idiote !» pensa Borodine. Jalia Solaris appuya sur un bouton. La vitre qui se trouvait près de Borodine s'abaissa. Celui-ci, avec un pincement d'angoisse, considéra l'avenue déserte, et ensuite, il se pencha vers l'ouverture. Il s'en échappait une fragrance de bois précieux, un parfum à base d'écorce de sophora, de palissandre. « Bonjour, Jalia. Je peux vous appeler Jalia ?» demanda Borodine. « Donnez-moi ça !» dit Jalia Solaris. Elle avait dit cela avec des mots que n'importe qui pouvait comprendre. Mais son intonation était si vide de toute pensée décryptable que Borodine prit peur. Et ayant avancé la main dans l'ouverture, il lâcha le petit animal sur le siège. Jalia Solaris s'en empara exactement un onzième de seconde après que les quatre pattes minuscules eurent touché la moleskine, et sans délai, elle déclencha la remontée de la vitre. On avait l'impression qu'elle ne s'intéressait plus à Borodine. Déjà la voiture avançait. Déjà, elle avait avancé d'un mètre. La roue avant gauche désescaladait élastiquement le trottoir. Le témoignage de Borodine s'interrompt là. Jalia Solaris a-t-elle entamé une relation personnelle avec la souris? L'a-t-elle mangée? A-t-elle fait disparaître Borodine? L'a-t-elle, après réflexion, attirée à l'intérieur de son véhicule? Et dans ce cas, a-t-elle entamé une relation personnelle avec lui? Ou l'a-t-elle mangé, lui aussi?
encore comme il y a 22 ans. J'ai rêvé de Sophie Gironde. Elle m'avait entraîné dans une aventure qui ne s'accordait nullement à mon humeur ou à mes capacités. Nous accouchions des ours blanches dans l'entrepont d'un paquebot. On était au petit matin, en panne sur une mer d'huile, ou à quai, car le bateau ne bougeait pas. La lumière du jour arrivait à peine jusqu'à nous. Les lampes ne fonctionnaient pas, ni la ventilation. L'odeur du sang errait en lourds nuages dans la coursive. Elle se superposait aux relents fauves. Nous avions déployé une bâche sur le sol qui déjà avait été déchirée à coups de griffes. La place manquait. On entendait le choc sourd des pattes qui heurtaient les murs métalliques, le crissement des ongles et des reniflements des souffles. Les ours blanches se débattaient. Elles grognaient d'une manière qui me paraissait agressive, mais qui ne troublait pas Sophie Gironde, plus rodée que moi à ce genre de situation et peut-être moins impressionnée que moi par le cérémonial ou l'idée d'une mise au monde. Aucun matelot n'était venu nous prêter main forte. Personne ne s'était présenté ou pour calmer ou distraire les bêtes, ou fût-ce pour jouir du spectacle. Nous aurions pourtant apprécié une présence humaine afin de ne pas avoir l'impression d'être reclus à l'arrière d'une ménagerie et sans contact avec l'extérieur. Il y avait 3 ours. La première avait rampé à l'écart. Elle s'était affalée devant la cabine numéro 886. Vautrée de flanc contre la porte, elle léchait son unique bébé avec une sollicitude qui nous tranquillisait. Les 2 autres étaient gigantesques, pesaient 1 tonne et n'en finissaient pas de mettre bas. Sophie Gironde plongeait les mains entre les croupes et les pattes poisseuses et elle tirait. Je prenais les oursons en charge, de petites créatures sans grâce, ruisselantes de liquide âcre, fripées, à peu près aveugles et inertes. Je les posais sur la bâche et pinçais le cordon ombilical de chacune d'elles en m'efforçant de bien faire. Il fallait aussi, sans tarder, approcher le nouveau-né de la truffe maternelle, le tendre vers la langue et la bave maternelle et lui éviter ensuite d'être écrasé ou mordu. J'effectuais ces opérations à contre-cœur. L'obstétrique n'a jamais été mon fort. Les ours ahannaient et rugissaient et se retournaient d'un côté sur l'autre avec violence. Elles giflaient l'air, leurs pattes massives cognaient contre le mur de métal et raflaient la peinture, cognaient. Nous trébuchions dans la toile cirée dont de tels mouvements rendaient la surface chaotique. Sophie Gironde était parfois renversée par l'ours qu'elle assistait. Je devais alors, en urgence, la retirer de dessous l'avalanche de viande et de poils jaunâtres qui l'étouffaient. Elle se remettait debout, sans commentaire, et reprenait la parturition là où elle avait été interrompue. Partout gisaient des oursons, des flaques de délivre, des flaques de salive et de sang. Nous étions mal propres. La sueur nous aveuglait. Il aurait fallu renouveler l'air. L'ambiance de caisson étanche, les vapeurs fauves irrespirables jouaient sur les nerfs de tous et de toutes. La première ours avait cessé de flairer son bébé et de le toiletter. Elle l'avait abandonné dans un coin entre 2 plis de la bâche et après avoir uriné, Elle s'était soudain dressée de toute sa hauteur. Elle déambulait en grondant entre les portes coupe-feu et de temps en temps, elle retombait à quatre pattes pour frotter sa tête contre une parturiente ou pour interroger du bout de la langue un des nouveaux-nés qui ne lui appartenait pas. Elle dominait l'espace réduit de la coursive. Elle allait et venait. Elle nous gênait. Je m'aperçus enfin que quelque chose clochait vraiment dans notre entreprise, comme la dernière fois, 22 ans auparavant, et comme souvent lorsque Sophie Gironde m'invitait à partager un moment de complicité. Quelque chose rendait irréelle la réalité que nous traversions ensemble. C'était le nombre d'oursons que nous extrayions du ventre de leur mère. Chez l'ours polaire, les portées comptent d'ordinaire un ou deux individus, en tout cas, jamais plus de trois. Or, nous avions déjà autour de nous 10 ou 11 rejetons, et peut-être même 13 ou 14, car dans la pénombre et le désordre, il était devenu difficile de faire un décompte exact. Et de nouveau, Sophie Gironde s'activait sur la troisième ours. Je lui fis part de mes doutes. Je ne sais pourquoi, je m'exprimais en recourant à des tournures de phrases et à des mots qui m'étaient étrangers. Je disais « prélard » au lieu de « bâche ». Je discourais sur les matrices d'une voix moite. Elle me lança un coup d'œil en biais, mais ne répondit rien. On voyait nettement qu'elle ne croyait pas à mon existence. Je sentis sur ma nuque goûter une écume brûlante. La première ours s'était approchée de moi. Elle était cabrée au-dessus de moi. Et elle rouquait.
Une fois de plus, Wang, dans la solitude, courait à travers la forêt. Il avait son rythme, il le maintenait. Il ne prenait aucune précaution particulière quand des obstacles embrouillaient sa route. Il fonçait. Tout ce qui venait à sa rencontre, il le déchirait ou le bousculait avec sa tête, avec ses puissantes épaules. Il traînait dans son sillage pendant parfois une demi-minute ou même un peu plus, des lianes desséchées, hérissées d'excroissances rigides, filandreuses, noires de poussière pourrie, qui devenaient derrière lui d'immenses râteliers destructeurs et finissaient par se perdre ou par éclater sous la torsion qu'il leur infligeait. Les lianes pleines de suc, plus souples, coulaient sur lui avec des mouvements reptiliens. Elles rampaient, elles sifflaient, mais elles échappaient rarement à l'arrachage, elles aussi. Mortes ou vives, les plantes ruisselaient d'araignées, parmi lesquelles on remarquait surtout de grosses araignées pensives, assez semblables à des carangueiras, mais plus lentes et plus roussâtres. Convaincues peut-être de leur supériorité sur les espèces en voie de disparition, ces bêtes paraissaient indifférentes à ce qui leur survenait. Elles se laissaient tomber dans les herbes, sur l'humus, avec un ploc velouté qu'elles seules entendaient au milieu du vacarme, et elle ne se donnait pas la peine d'accompagner du regard l'énorme masse filante qui les avait dérangés. Elle s'en fichait. D'autres animaux réagissaient plus mal. Les oiseaux étaient exceptionnels et apathiques dans cette partie de la forêt, comme agonisants, et leur jacasserie plaintive ne durait pas. Mais les singes criaient longtemps après le passage de Wong. Ils manifestaient leur indignation, puis ils continuaient à hurlailler sans se rappeler exactement quelle catastrophe avait bouleversé leur perchoir, naturel ou non, leur petit quotidien monotone. Wong n'attachait aucune importance à ses véhémences. Parfois, sur plusieurs dizaines de kilomètres, toute présence de mammifères cessait. Seuls les craquements de branches et les chocs se faisaient entendre. Wong avait alors l'impression de traverser bruyamment le silence. Il continua à tout fracasser sur sa route pendant 5 ou 6 petites heures, puis il déboucha sur un ancien chemin et ralentit le pas. Il n'était absolument pas essoufflé, et il aurait pu poursuivre à la même vitesse jusqu'au soir, mais là, sur cette ancienne voie tracée par des non-éléphants, il diminuait son allure, puis il s'arrêta. La route avait été ouverte au bulldozer 1 ou 2 siècles auparavant, et la végétation l'avait totalement refermée et ingurgitée dès que les ouvriers avaient abandonné le chantier, mais cette portion subsistait, sans doute parce que c'était un des endroits où on avait stocké jadis les venins chimiques, les désherbants et les défoliants avec lesquels les ingénieurs voulaient combattre les repousses sauvages et les Indiens. Les citernes s'étaient émiettées les unes après les autres, déversant leur poison sur une vaste surface rectangulaire où la forêt ensuite n'avait plus été que l'ombre d'elle-même. C'était une balafre inguérissable. Les herbes, les graminées et les vilaines plantes couvrantes avaient fini par accepter leurs nouvelles conditions de survie, mais on voyait au premier coup d'œil combien leur santé était précaire. Les couleurs étaient anormales, les fibres s'étiolaient dans une sorte de grisaille friable. Les buissons restaient nains. Wong dominait ce rectangle sinistré dans lequel il plongeait jusqu'au ventre. L'odeur des poisons stagnait à l'arrière-plan, pas très puissante. On sentait surtout la boue d'un réseau de flaques d'eau croupies qui commençait à 40 mètres sur la gauche de Wong et des odeurs de savane triste, à quoi s'ajoutait une composante inhabituelle de pétrole lourd, venu d'on ne sait où. Du sud, peut-être. Wong se tourna de côté et d'autre. La trouée avait 800 mètres de long sur 200 de large. Au-delà, les arbres, comme partout ailleurs, se dressaient, solides et très verts. Alors qu'il s'interrogeait sur l'origine et la qualité du pétrole, Wong renifla un fumet de non-éléphant qui venait de la même direction. Sud-sud-est. Un non-éléphant, s'exclama Wong avec prudence. Il se tint tranquille, tous les sens en alerte. À l'orée sud-sud-est de la forêt, il voyait un talus qu'étouffait une variété vileuse de vigne vierge, à moins que ce ne fût un tapis d'araignées moutonnières, comme à présent il en existait de grandes hordes, guettant avec discipline, par groupe de 2000, le moment où leur capitaine mettrait un terme à l'immobilité collective, donnerait l'ordre d'un assaut ou d'un repli. Et derrière cette armée fantôme, on devinait un vide dans les broussailles, une arche végétale qui avait été façonnée à la machette. Un non-éléphant avait là, de toute évidence, établi un passage. Wong tendit la trompe plusieurs fois et analysa ce qu'il captait. Feu et cendre, crasse, haleine de charognard, étoffe puante. Tout indiquait qu'un humain avait ses aises dans les environs. Il était plus sage de s'immerger de nouveau sous les ramures et de s'écarter du territoire que contrôlait cette créature. Toutefois, Wong estima que le danger de tomber sur un humain vraiment hostile était mince, et il commença à se mouvoir avec une majesté musculeuse. Il y avait 600 mètres à parcourir jusqu'au talus. Les aigrettes des herbes lui éraflaient en douceur les flancs. Les panaches s'éparpillaient dès qu'il les touchait. Les insectes les plus stridents se turent. Les singes vociféraient très loin au nord, dans la forêt. Aucun oiseau n'était repérable dans le ciel. Une chauve-souris géante, égarée, fit un peu de surplace au-dessus de lui, comme s'il était un gibier possible, puis retourna sous les arbres, à grands coups d'ailes. Le sol était meuble et peu sûr. Soudain, alerté par le cognement de ses pas lourds, un animal habillé se hissa sur le talus et s'immobilisa. C'était un humain typique, avec un chapeau de brousse et des vêtements en toile tels qu'on n'en fabrique plus depuis 100 ans, et une paire de jumelles qui pendaient sur sa poitrine. Il sentait fort l'urine, la transpiration, la nourriture mal digérée, la fumée, le naphte. Il ne se servait pas de ses instruments optiques pour observer l'approche de Wong. Il piétinait ce qui recouvrait le sommet du monticule et qui, maintenant, Wong en avait la certitude, était un tapis de vigne vierge et non d'araignée. Bientôt, ils furent face à face. L'humain paraissait excité, mais il n'avait pas peur. La sueur mouillait son visage, creusé, ravagé par la solitude et la chaleur. Comme ils se tenaient sur un point culminant, ils étaient à peu près à même hauteur, tous les deux. Pendant un moment, ils s'examinèrent mutuellement, sans agressivité aucune, mais avec un ahurissement croissant, car ils ne savaient pas trop quoi se dire. Deux cigales, perchées sur des branches toutes proches, avaient entamé un duo suraigu. Wong fut le premier à rompre le silence.
Le mieux est qu'on fasse comme si on se connaissait depuis toujours.
D'accord. Je te donne mon nom tout de même, pour que ça ne pose plus de problème par la suite. Tatiana Crow.
Moi, c'est Wong.
Tu es le premier éléphant qui passe ici depuis 9 ans.
Tu tiens le compte des passages depuis 9 ans?
Depuis 20 ans. Je suis installé à côté de l'étang de bitume. C'est à 500 mètres. J'inscris sur un registre les événements importants. Il y a 9 ans, en octobre, un éléphant est passé.
Ça devait être Martha Ashkarot. Une éléphante corpulente, avec des bizarres touffes de poils argentés sur le postérieur et les pattes arrière.
Je n'ai pas vu si c'était une femelle. Pour les poils argentés, je ne me rappelle plus.
Je me demande qui d'autre ça aurait pu être.
Elle s'est engluée dans le bitume.
Ils marquèrent un temps en mémoire de la disparue.
Tu veux boire quelque chose? J'ai de l'eau de pluie à la maison, des jus fermentés. Hier, j'ai tué un singe. Il me reste une tasse de sang.
Pas de sang.
Ils s'enfoncèrent dans la forêt, sur la piste que l'humain avait dégrossie à la machette. Wong élargissait le sentier, mais il veillait à se faufiler en le démolissant le moins possible. On voyait que l'humain avait eu à cœur de l'entretenir, ce que montraient les nombreuses traces de coupes récentes, la repousse difficile des fougères à feuilles vénéneuses, le sol propre. Au fur et à mesure de leur progression, la puanteur du bitume augmentait, peu à peu effaçant l'odeur d'excréments et de sueur fauve que l'humain laissait derrière lui. Sans tarder, ils débouchèrent sur un espace ouvert. De nouveau, le ciel brillait, torride et blanc. Sous les derniers arbres, l'humain avait construit une cabane qui s'adossait aux ruines de plusieurs autres, rendue inhabitable à la suite de plusieurs catastrophes nettement lisibles, telles que des pluies diluviennes, l'incendie, les termites ou l'usure du temps. Après la cabane débutait un lac de naphte d'une largeur considérable, presque circulaire, disons d'une soixantaine de mètres de rayon. Les émanations sur la rive écrasaient toute autre fragrance. Elles étaient supportables, un peu réglissées et enivrantes, mais elles écrasaient tout.
Drôle de choix pour se loger. Quand tu es chez toi, tu ne peux pas sentir ce qui s'approche.
Mais j'entends mieux, beaucoup mieux. Du côté du lac, rien ne vient, aucun bruit. Rien ne peut surgir.
C'est juste.
Il regarda l'étang. Des pollens et des feuilles mortes adhéraient à la surface, mais à plusieurs endroits, les déchets avaient été absorbés, et la luminosité du ciel créait des jeux goudronneux et des moirures. Le ciel était clair, les reflets étaient beaux.
D'autre part, je n'ai pas vraiment choisi. On m'a nommé là. Je suis en charge du registre. J'y couche les événements importants.
Tu sais écrire ?
Oui. On est encore plusieurs comme ça.
Combien ?
Une bonne dizaine.
C'est beaucoup. J'ignorais.
On nous envoie tenir les registres pour les générations futures.
Celles-là, il y a peu de chances qu'elles sachent lire.
Elles seront peut-être comme moi. Je sais écrire, mais je ne sais pas lire.
Bon, pour ce que ça sert...
Il s'était approché du bitume. La rive n'était pas fiable. Il recula.
C'est réapparu depuis un siècle, ces mares. Il paraît que dans certaines régions, sur certains continents, elles forment des lacs immenses.
Qui t'a dit ça ?
Avant d'être nommé au registre, j'ai reçu une formation. On était deux, plus la prof. C'est elle qui racontait ça. Elle nous faisait une description de l'état du monde. Elle prétendait que les générations futures auraient du mal à s'adapter.
Les lacs immenses de bitume, c'est des conneries. J'ai tellement erré dans tous les coins que j'en aurais vu, si ça existait. Et les générations futures, c'est des conneries aussi. On n'aura pas de successeur. On va s'arrêter là.
Tu crois ?
J'ai l'impression. À la rigueur, les araignées prendront la relève. Je leur souhaite bien du plaisir.
Wang fit le tour de l'étang. Une vapeur invisible s'en échappait, imprégnait l'air et les poumons de Wang. Il en ressentait une certaine griserie. Tandis qu'il se promenait au bord du naft, l'humain s'agitait dans son continuum de cabanes vides, en ruines, habitables ou pourries. Il préparait une collation pour avant le crépuscule. Wang se demanda comment allait se terminer leur relation à tous les deux. Elle s'était à peine ébauchée et elle n'aurait aucune suite. Se séparerait-il pour toujours avec le sentiment d'un inachèvement amer ? Prononcerait-il la promesse absurde de se revoir avant leur mort ou avant la fin du monde ? Réussirait-il à rester en bon terme jusqu'au départ de Wang ? L'humain avait-il prévu de mentionner leur rencontre sur le registre des événements d'importance ? Quand il revint près de la cabane, l'humain se tint devant lui avec une attitude qui rompait avec l'assurance dont il avait fait preuve jusqu'à présent. Il était beaucoup plus nerveux. Il s'était débarbouillé et maintenant il transpirait à grosses gouttes, ce qui trahissait un trouble d'origine psychique ou sexuelle, ou un accès de fièvre, ou autre chose. Il ne s'était pas débarrassé de son chapeau de brousse, mais il avait enlevé ses vêtements du haut et sa paire de jumelles, ne conservant autour du ventre qu'une sorte de chiffon déchiré. On voyait sa peau luisante, d'une couleur bronze assez jolie, bien qu'attaquée un peu partout par des parasites, pleine de cicatrices, de croûtes. Des mouches se posaient sur ses mamelles, des libellules voltaient autour de ses épaules, de ses bras. L'humain frissonna.
Pour le cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je suis une femelle.
Wang marmonna une phrase. Il se balançait à petite distance. C'était trop beau, pensa-t-il. Ça commence. L'humain ruisselait de sueur. Les mouches bourdonnaient autour de lui. Les libellules émettaient un crissement métallique. De nouveau, il frissonna. Il avait un air anxieux, des yeux plaintifs.
Notre prof nous a parlé des techniques de reproduction. Elle nous a expliqué ce qui se passait entre un mâle et une femelle. Tu es un mâle, Wong ?
Oui.
Alors je devrais te faire de l'effet, normalement. Je te fais de l'effet ?
Wong consacra une demi-seconde à son propre examen. Une introspection prolongée n'était pas nécessaire.
Non.
Pourquoi ?
Arrête avec ça, Tatiana Krau. Donne-moi un peu d'eau. Je vais repartir.
Tu devrais avoir envie de copuler avec moi, normalement.
Wong hocha son énorme tête. L'humain essuya la sueur qui coulait de ses sourcils à ses yeux et l'aveuglait. Les mouches s'obstinaient à explorer la peau de sa poitrine, faisaient de très courts zigzags en apesanteur, puis revenaient se poser sur ses mamelles, ses aréoles presque bleuâtres, son ventre. L'humain ne les chassait pas. Il était entièrement occupé par l'état de ses relations avec Wong.
Notre prof nous a prévenus. C'est bestial, c'est atroce, mais finalement on n'a rien à craindre. Ça doit se faire.
Je vais repartir.
Sur le visage de l'humain, une expression de contrariété s'élargit.
Attends.
Il ôta son chapeau de brousse, libérant une chevelure noire, hirsute, épaisse, qui avait été retenue jusque-là et qui soudain lui descendait sur les épaules. On avait l'impression que cette masse souple avait été récemment lavée. Les boucles avaient été taillées à la diable, certaines déjà grisonnaient, mais la plupart conservaient une belle couleur luisante. L'humain secoua ses cheveux vers l'arrière pour que la sueur ne les colle pas sur ses joues. Il avait des mouvements maladroits. Il manquait de sûreté, d'expérience. Dans sa main droite, son chapeau tremblait. Il se mit à regarder Wong sans baisser les yeux, avec au fond des prunelles une exigence sourde, obstinée, une demande qu'il ne savait pas formuler avec des paroles. Il n'avait rien appris des phrases à travers lesquelles le besoin de convulsion sexuelle s'exprime. Il n'avait jamais rien entendu de tel. Il n'avait jamais abordé le sujet avec quiconque, et la leçon de l'institutrice n'avait pas été un guide utile pour la conduite à tenir. Il n'avait jamais connu une situation comparable. Son instinct lui dictait bien quelques ébauches de gestes, mais il n'osait pas les accomplir devant Wong, les estimant malpolis et même obscènes. Avec cette incertitude qui lui embrumait l'esprit, il commença à s'approcher de Wong. Celui-ci recula de plusieurs pas.
Tu as de beaux cheveux, Tatiana Krau.
L'humain ondula de façon bizarre et avança encore vers Wong. Wong recula encore de 4 ou 5 pas. Les intentions de Tatiana Krau étaient très imprécises et il avait surtout le souci de ne pas la blesser physiquement. Il ne voulait pas qu'elle entre en contact avec lui, qu'elle le touche, car alors elle commencerait à s'accrocher à lui et il aurait beaucoup plus de mal à l'écarter sans lui casser un ou deux os. Une ou deux articulations.
Arrête avec ça, Tatiana Krau.
Au même moment, il sentit le sol s'effondrer sous son arrière-train. Sans s'en rendre compte, il s'était engagé sur une partie friable de la rive, et la terre venait de céder sous son poids. Il bascula et poussa un barrissement de colère. Il n'avait rien de stable ou de solide à quoi se rattraper. Une seconde plus tard, il était comme assis stupidement dans le bitume, les jambes immobilisées, le derrière englué jusqu'au bassin. Il eut assez de maîtrise de soi pour ne pas se débattre de façon désordonnée. Il savait que le bitume allait l'aspirer lentement, qu'il ne pourrait pas s'en arracher d'un simple coup de rein, et que s'il remuait sous le coup de la panique, il risquait de perdre l'occasion de s'en extirper sain et sauf. Il valait mieux procéder avec calme. Il savait qu'il jouait sa vie. Le désir de se contorsionner était pourtant très fort. Sous lui, aucun fond rocheux ou terreux n'avait encore été atteint. Il s'enfonçait. Au-dessus de lui, sur le bord de la cassure, Tatiana Krau écarquillait les yeux, se mordait les lèvres.
Ne gigote pas. Plus tu gigoteras, plus tu t'enfonceras.
Wang ne fit pas attention à elle. Il grattait lourdement devant lui pour que ses pattes non emprisonnées trouvent un meilleur appui sur la terre ferme. Il cherchait avec la trompe des racines suffisamment fortes pour supporter la traction qu'il comptait leur infliger au moment où ils se hisseraient hors du bitume. L'unique réseau de racines digne de ce nom sortait de terre à 6 mètres de là, hors de portée. Sa trompe et ses membres antérieurs n'étaient pas emprisonnés, mais ne lui servaient pas à grand-chose pour l'instant. Derrière lui, son corps continuait à sombrer dans le magma épais. Centimètre par centimètre, il sombrait sur le flanc. Le bitume n'était ni chaud, ni tiède, ni froid. C'était la mort qui le happait avec lenteur. Une mort sans température particulière, inqualifiable.
Tu as quelque chose qui ressemble à une corde ?
L'humain fit non en secouant la tête. Il avait remis son couvre-chef. Il disparut. Au-delà de la cassure, Wong l'entendit courir vers sa cabane et fouiller, puis il revint.
Non.
Au-dessus de Wong, il y avait le ciel du jour qui finissait. Et au-dessus de l'humain, il y avait la haute couronne des arbres de la forêt. Wong se tint immobile une minute à réfléchir, puis quelque chose céda encore derrière lui, sous lui, et il s'enfonça d'un bon demi-mètre supplémentaire. Le bitume montait pesamment le long de son ventre. Il s'affola, se débattit, puis se calma. Maintenant, il avait des giclures de goudron partout sur le dos, et ses pattes de devant poissaient à plusieurs endroits, sali d'un emplâtre où se mêlait de l'humus, de la terre, du naft. L'odeur très puissante du lac l'étourdissait.
Inutile de te débattre comme ça, ça fait empirer la situation.
Mais oui, tu as une idée, je suppose.
L'humain allait et venait sans rien pouvoir faire. Ses seins tressautaient. On ne sait comment il avait réussi à se coller du goudron sur une jambe. Il était consterné. Et il se retirait à tout instant pour trembler ou soupirer. Au moment où la nuit se fit, Wong n'était pas plongé dans le bitume jusqu'aux épaules, mais il avait encore dérapé vers l'arrière, et ses pattes avant n'avaient réussi ni à le retenir dans sa glissade, ni à échapper à l'engoudronnement. De temps en temps, le bitume avait des flatulences extrêmement lentes, ou réagissait aux contorsions de Wong avec des bruits de ventouse.
Ben, tu vois, tu vas me mettre dans ton registre, moi aussi.
Je t'aurais mis, de toute façon.
Il n'y avait plus de lumière entre eux ou autour d'eux. Wong allongea sa trompe vers le ciel, vers la forêt, vers l'humain. Des cris nocturnes sonnaient sous les arbres, des grincements, des rires d'oiseaux de la nuit, des hurlements stridents d'insectes. Plus haut, les grandes chauves-souris claquaient des ailes. Les étoiles ne s'allumaient pas. Une très incertaine grisaille sur la gauche de Wong indiquait que la lune s'était levée. Elle devait être à peine visible, au début de son premier quart. Wong savait qu'il allait mourir. Il aurait une fin atroce. Il périrait étouffé et sans pouvoir aucunement accélérer le processus. Il fallait s'y préparer. L'humain à proximité le dérangerait et augmenterait par sa présence non consolatrice, par ses gémissements ou son regard, le caractère effroyable de l'agonie. Il faudrait s'enfermer en soi-même pendant des heures, des jours peut-être. Il faudrait convaincre l'humain de ne pas s'interposer de façon agaçante entre lui et l'attente de la mort. En même temps, cet humain, cette Tatiana Krau, n'était pas une ennemie, et même méritait un peu de compassion. Sa vie larvaire et solitaire depuis des décennies n'avait pas été aussi heureuse que celle que Wong avait menée. En tant qu'humain, elle était un peu désaxée au niveau sexuel, comme tous ses congénères, mais ce n'était pas sa faute. Dans l'obscurité, Wong renifla en direction de Tatiana Krau. L'autre ne s'était pas retiré vers sa tanière. Elle restait accroupie sur la rive de l'étang, à petite distance. Elle s'était rhabillée. On sentait les effluves que répandait son chemisier trempé de sueur, sa veste, son pantalon de toile.
Tatiana Crow, tu es là?
Oui. Tu as besoin de quelque chose?
Non. Simplement, j'aimerais que tu t'en ailles loin dans la forêt pendant une petite semaine.
Tu ne veux pas que je t'apporte quelque chose à boire?
Non, je n'ai pas soif.
On ne voyait presque rien. Les cris nocturnes marquaient une pause. On approchait peut-être d'une heure où la vie est un peu moins active. Une chauve-souris vint clapper à proximité, puis le silence revint.
Alors tu vas t'en aller?
Tout de suite? Tu veux que je m'en aille tout de suite?
J'aimerais bien. Loin. Quelques jours.
Tu vas mourir tout seul. Si je m'en vais, tu n'auras personne pour te regarder au dernier moment.
Bah. On est les derniers. C'est pas très important qu'on nous regarde ou pas. Tu vas t'en aller?
Oui. Et tu sais...
Quoi?
Je t'inscrirai sur le registre.
Ils laissèrent passer un moment. L'humain hésitait.
Tout à l'heure, tu avais de belles mamelles, Tatiana Crow.
Ah?
De beaux cheveux et de belles mamelles.
Puis il se tut et il se prépara à mourir.
Antoine Volodine, extrait de Des anges mineurs et de Nos animaux préférés, avec Marie-Armelle de Guy, Jean-Luc de Baptiste, Éric Herson-Macarel. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Marie Le Peintre. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidorov. Enregistré en public à la salle Boris Vian de la Grande Halle de la Villette, le 25 novembre 2007.